culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à notre culte espoir. C'est une joie de te retrouver, auditeur, auditrice, pour vivre ce temps de culte ensemble. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Mildred et Brian sont les chroniqueurs du jour. Bonjour les amis.
Bonjour.
Salut Amandine.
Merci pour votre présence, pour tout ce que vous avez préparé et soyez bénis en ce début de culte. Nous avons également un invité spécial, Claude Pélissère.
Oui, bonjour.
Bonjour, bienvenue Claude. Alors tu es pasteur d'une grande église, l'église adventiste de Collonges-sous-Salève en Haute-Savoie, qui est une église au milieu d'un campus où des futurs pasteurs se forment, où il y a une structure scolaire, où il y a des étudiants qui apprennent le français. Qu'est-ce que ça veut dire d'être pasteur d'une telle église ?
Ben, ça veut dire deux choses. D'abord, d'être pasteur.
Ouais.
Et ça ne change pas dans le sens où il y a un certain nombre de choses qui sont toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'on a toujours affaire à des personnes, des êtres humains, et qu'ils soient professeurs, étudiants ou voilà, autres. Eh bien, ce sont des personnes qui vivent des belles choses et parfois des choses un peu moins belles, des joies et des peines, et qui essaient d'avoir une relation avec le Seigneur. Donc, de ce côté-là, le rôle ne change pas. Après, c'est vrai que sur le plan administratif, c'est un petit peu différent parce que c'est en lien avec une école, donc il y a des contraintes, je dirais, un petit peu, mais ce n'est pas l'essentiel.
Okay.
L'essentiel, c'est, voilà, c'est le lien que l'on tisse avec les personnes. Et essayer de les aider à, voilà, avoir ce lien avec le Seigneur. Donc
excellent.
Ça ne change pas.
Eh bien, écoute, je te remercie d'avoir accepté notre invitation, de venir partager deux cultes avec nous. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un premier thème que tu as choisi, le pardon. Pourquoi ce thème ?
C'est un thème, pour moi, fondamental, parce que c'est quelque chose que j'ai souvent vu dans la vie spirituelle être un blocage. Et qui fait que des personnes s'arrêtent dans leur vie spirituelle, mais aussi dans leur vie tout court. C'est-à-dire que c'est un sujet qui, pour moi, touche aussi bien le croyant que l'incroyant. Celui qui vit quelque chose de difficile, sa question, mais c'est comment je peux m'en sortir ? Et le comment, pour moi, ben, la réponse se trouve quand même beaucoup dans la Bible. Et il me semble qu'il y a des choses qui nous aident. Donc ça, c'est la raison pour laquelle j'aime bien parler du pardon, parce que je crois vraiment que c'est aussi le cœur du christianisme.
C'est une des clés. Hein.
C'est une des clés.
Eh bien, écoute, je prie que le Seigneur nous inspire, t'inspire, vraiment te guide pendant ce temps de culte, que ce soit un temps qui, lui, soit agréable, qui lui rende gloire et que nous puissions vraiment nous laisser guider par l'Esprit Saint. Voilà, au cours de ces derniers mois, j'ai partagé avec toi, auditeur, plusieurs de mes habitudes du quotidien pour cette chronique « Dieu dans ma semaine », ce que je vis notamment dans le secret de mon intimité avec Dieu. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler, comme tu as entendu, de pardon. C'est selon moi une notion clé, comme tu disais Claude, dans la foi. J'ai besoin régulièrement de m'isoler dans un endroit sécurisé, calme, pour prendre un temps seul avec Dieu autour du pardon. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, cela veut dire « pour moi », qu'il est mort pour mon péché. Moi, Amandine, enfant de Dieu des années 2000, quand j'imagine Jésus sur la croix de manière très concrète, il y a 2000 ans, porter ma colère, mon irritation, ma jalousie, mon manque de patience, mon manque d'amour, mon manque de confiance, mes jugements, mes manquements, ça me bouleverse en fait. Dans mes temps de prière, j'ai envie d'être franche du coup, lucide sur mes péchés devant ce Jésus plein d'amour. Et je m'imagine, vraiment visuellement, je m'imagine au pied de la croix, au pied de ce Dieu glorieux, cloué pour mon péché, parce qu'il veut que je sois libre pour que j'aie la vie éternelle. Alors il m'invite à la repentance, parce que oser regarder mon péché droit dans les yeux, mettre des mots sur ce comportement ou ces pensées destructeurs pour moi et pour ceux qui m'entourent, bah, demander pardon sincèrement et accepter que ce péché était porté sur la croix par mon doux Jésus, c'est pour moi choisir la vie. C'est accepter son amour, accepter que j'ai besoin de lui, que j'ai besoin d'être transformée, et c'est accepter sa grâce, il peut me libérer. Alors Jésus a porté l'adultère, le vol, la trahison, le viol, le meurtre, la violence sur lui, pour toi, pour moi, pour tous ses enfants. C'est un acte que je trouve inouï. Il l'a fait par amour et parce qu'il est plus grand, plus puissant que n'importe lequel des péchés que moi ou toi avons commis. Le pardon, nous allons le voir, libère celui qui a péché, celui qui a subi. Et des fois, je ne me rends pas compte personnellement de mes péchés. Alors j'utilise le verset 13 du psaume 19 qui dit « Qui peut discerner tous ces faux pas ? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. » Et je demande à Dieu qu'il m'ouvre les yeux, qu'il pointe du doigt ce pourquoi j'ai besoin de me repentir et ce pourquoi j'ai besoin que Dieu travaille dans mon cœur. Où j'ai besoin d'être renouvelée, où j'ai besoin d'être lavée. Alors attention, hein, parce que quand on demande une chose pareille à Dieu, il répond, et parfois c'est douloureux d'ouvrir les yeux sur certaines choses à propos de nous-mêmes. Mais je veux lui faire confiance. Dieu est amour, il est bon, il est doux, il est tout-puissant. Et quand il m'ouvre les yeux, je ne reste pas 100 ans à m'apitoyer sur ce qui ne va pas chez moi. Je dépose avec repentance tout cela à ses pieds. Et je veux, parce que c'est une décision, accepter son pardon et son amour. Si je dois me mettre en action pour demander pardon à quelqu'un ou autre, je sais qu'il est à mes côtés, qu'il me soutient. Et je ne peux que t'encourager à vivre ces temps de confession et de repentance avec ton Papa Céleste, dans le secret de ton intimité avec lui.
Péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée, délivrée. Oui, je suis délivrée de tous mes ennemis. Jésus m'a
Mildred, quelle est la promesse biblique que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui?
Comme tu le sais, dans la Bible, nous trouvons d'innombrables versets sur le pardon. J'ai envie de partager avec toi, cher auditeur qui nous accompagne, le psaume 86, verset 5. Voici une promesse qui redonne de l'espoir. « Et toi, Seigneur, tu es bon et tu pardonnes. Ton amour est immense pour tous ceux qui font appel à toi. » Nous avons tous un passé rempli de bonnes réalisations ou peut-être marqué par des décisions erronées et pas vraiment jolies. Dieu est un Dieu de pardon. Il est miséricordieux. Il n'est pas là pour nous accuser. Dieu nous aime. Il attend qu'on vienne vers lui, qu'on le choisisse, qu'on l'accueille. Il souhaite te donner l'occasion de recommencer avec lui afin d'avoir un futur étincelant à ses côtés.
Nous sommes dans ce culte espoir et j'aimerais t'inviter à un temps de louange et une fois n'est pas coutume, un temps de louange autour du pardon. Pour commencer, je nous invite à écouter ce chant d'adorateurs qui demandent pardon. Peut-être que toi-même, tu ne sais pas comment demander pardon. Les mots te manquent ou la démarche te fait peur ou te semble trop difficile ou loin de ta réalité. Alors je t'invite à écouter ce chant qui date un peu mais qui a des paroles très fortes et peut-être tu pourras faire tienne ses paroles.
Pardon, pardon d'avoir jugé. Pardon, pardon d'avoir condamné. Pardon, pardon d'avoir blessé. Pardon, pardon d'avoir critiqué. C'est vrai, mon cœur est tortueux. C'est vrai, il est dur et orgueilleux. Et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Rester là sans rien faire. Pardon, c'est mon cœur qui te prie. Pardon, oh viens purifier ma vie. C'est vrai, mon cœur est tortueux. C'est vrai, il est dur et orgueilleux. Et sans toi, je ne changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer.
Tu nous as donné ta vie, tu as donné ton esprit pour que l'on soit tes témoins. Tu as dit c'est par l'amour que le monde qui nous entoure verra que tu es. Alors entends nos prières.
Amen. Et j'aimerais maintenant te proposer un deuxième chant que je trouve magnifique. Il est inspiré du psaume 32, que je t'invite à aller relire, qui parle de la joie et la liberté que l'on peut ressentir quand on a expérimenté le fait de demander pardon, d'être pardonné et de pardonner. On retrouve notamment le verset 5 du psaume 32 dans cette partie du chant. « Et je t'ai avoué, je ne t'ai plus caché. J'ai dit, je reconnais devant l'Éternel tous les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de mes fautes. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Juste réjouissez-vous dans l'Éternel. Je veux louer notre Dieu qui pardonne et qui sauve. »
Aussi longtemps que pour moi je gardais mes fautes, mes péchés comme un secret, c'est comme si mon corps dépérissait. La nuit, le jour sur moi ta main pesait. Et je t'ai avoué, je ne t'ai plus caché. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel tous les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé, oh tu m'as déchargé, tu m'as déchargé du poids de mes fautes. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Ainsi que nous pouvons te prier, sans repousser ce temps de vérité, même si déborde les grandes eaux, nous ne serons
Mildred, tu as toujours le don de nous présenter des témoignages édifiants et c'est tellement important de pouvoir entendre des croyants nous parler de combien Dieu est un Dieu vivant, un Dieu qui agit encore aujourd'hui, qui transforme des vies. parce que c'est vraiment notre conviction. Alors, qu'est-ce que tu vas nous proposer aujourd'hui?
Merci beaucoup, Amandine. Écoute, je suis toujours très heureuse de rencontrer des personnes qui ont vécu de belles expériences avec Dieu. Et heureusement qu'elles acceptent volontiers de nous raconter aussi tout leur vécu. Aujourd'hui, je vous apporte l'histoire de Lucette. C'est l'histoire de sa famille, en fait. Elle va nous raconter un épisode tragique qui s'est passé dans sa famille. Mais malgré toute la tristesse familiale, ils ont pu expérimenter les bienfaits du pardon. Bonjour Lucette.
Bonjour Mildred.
Merci beaucoup d'avoir accepté de nous donner ce témoignage. Et je t'invite déjà de commencer ton histoire.
Ok, c'est un plaisir de pouvoir m'exprimer. Donc cette histoire, elle se déroule en 1956. Personnellement, je suis née en 1958, donc 2 ans après cette histoire. C'est l'histoire de mon frère qui s'appelait Luc et de toute ma famille en fait. Mes frères et sœurs avaient l'habitude de jouer ensemble puisqu'ils étaient 4 à l'époque. Luc qui avait 9 ans et demi, Elisabeth qui avait 7 ans et demi, Brigitte 6 ans et demi et Eric qui avait 4 ans. Et mon frère Luc était toujours le plus grand, très attaché à ma maman, qui adorait beaucoup sa petite maman. Et il aimait aussi beaucoup la Bible et racontait des histoires de la Bible à ses frères et sœurs. Il disait toujours, moi je suis le pasteur, je vais vous raconter des histoires. Et puis, au mois de mai 1956, le 27 mai 1956, un voisin de l'âge de 15 ans à peu près, a rencontré Luc et ma maman et lui a dit « Est-ce que Luc peut venir jouer chez moi ?» C'était la première fois. Ma maman ne le connaissait pas spécialement, mais c'était un tout petit village en France. Donc, elle s'est dit « Bon, ben, je vais aller le laisser jouer. » Il s'est passé peut-être 10 minutes et elle a entendu crier. Donc, elle est allée voir. Et il y avait une dame qui lui disait « Madame, madame, venez vite, venez vite. » Et là, elle a vu mon frère qui se traînait sur la route et qui est tombé dans ses bras. Et il a dit « Maman, maman, j'ai peur, je vais mourir. » Mes parents l'ont amené à l'hôpital. Et le garçon qui l'accompagnait, qui jouait avec lui, avait dit qu'il était tombé sur une fourche. Comme ma maman connaissait le médecin et l'infirmière qui était à l'hôpital, ceux-ci sont venus trouver mes parents. Ils lui ont dit « Écoutez, c'est pas normal que vous nous dites ça parce que il y a une balle qui... » Enfin, il a été tué à bout portant par une balle qui lui a transpercé la poitrine. Donc, ma maman, déjà bouleversée par la mort de mon frère, quand elle est rentrée, elle est allée avec les gendarmes trouver les voisins et effectivement, le garçon avait tiré à bout portant. Je ne vais pas entrer dans une multitude de détails, mais par la suite, je pense peut-être par culpabilité, mais la famille harcelait ma maman. Ma maman, qui était chrétienne, avait dit « Dieu a permis qu'on nous prenne Luc ». Et la dame disait « Oh, vous rendez compte, il aurait pu tuer sa sœur, hein, la maman du garçon qui avait fait le geste ». Et puis en fait, moi je ne pense pas que vous teniez votre petit garçon parce que vous diriez pas « Dieu a permis ça ». Et le pasteur avait suggéré à ma maman pour que la famille se rende compte de l'acte qui avait été fait, qu'il y ait un jugement au tribunal. Ce qui s'est passé, c'est mon père qui est allé, ma mère n'a pas voulu y aller. Et puis ça a dû mal se passer parce que mon père ne nous en a jamais parlé. Toujours est-il qu'après ce jugement qui a eu lieu, la famille, les grands-parents et la famille de ce garçon passaient devant la maison, c'était un village, il devait avoir 3000 habitants à peu près, et crachaient devant chez mes parents parce qu'ils étaient fâchés du jugement qui avait eu lieu. Mes parents ont dû déménager parce que c'était juste insupportable. Donc, ma maman a vécu des choses très très dures. Je suis née après, elle m'a appelée Lucette. C'est peut-être pas un hasard, mais je respecte son choix. Et puis, par la suite, ça a été difficile pour toute la famille parce que maman, ça a été compliqué pour un tas de choses pour elle, tellement la souffrance était grande. Elle avait perdu une partie
de sa... En fait, elle a perdu son enfant.
Elle a perdu
Ensuite,
son enfant.
Ils ont été persécutés par les voisins.
Ils ont été... Oui, je pense que c'est la culpabilité. Enfin, ma maman m'a toujours dit, elle ne les a pas jugés. Elle m'a toujours dit, Lucette, je pense qu'ils avaient une grande culpabilité et ils n'ont pas voulu l'admettre. Il y a un détail sur... Enfin, un détail qui est très important, en tout cas pour ma maman, c'est-à-dire que c'est elle qui a permis à mon frère d'aller jouer chez les voisins. Donc, dans un premier temps, elle a dû faire un travail... Enfin, elle a... dû accepter que Dieu, le pardon de Dieu pour le fait qu'elle ait accepté que son fils ait joué à côté, ait joué chez les voisins. C'est quelque chose qui est resté très très longtemps. Pourquoi je l'ai laissé aller?
Alors Lucette, j'ai eu la joie de connaître ta maman. Ouais. Aujourd'hui, elle a quel âge?
Elle a 101 ans. Elle va avoir 102 ans au mois de septembre.
Et c'est vraiment quelqu'un de joyeux. Elle est paisible. Comment elle a réussi, selon toi? Comment elle a réussi à surmonter tout cela?
Depuis qu'elle est toute petite, elle a vécu des choses. Elle a vécu des choses difficiles aussi depuis enfant. Et sa maman lui disait toujours: Dieu ne nous laissera jamais. Et elle, ça a été son leitmotiv dans sa vie. Et je pense que il y a quelque chose, quand je pense à elle, il y a quelque chose qui me vient toujours à l'esprit, c'est ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Et c'est l'Esprit du Seigneur qui l'a vraiment aidée à vivre et dans son cœur à se décharger de la rancœur, de la rancune, de l'insupportable, parce que c'était insupportable comme situation, c'était insupportable ce qu'elle a vécu, c'était insupportable la façon dont les personnes se sont comportées avec elle et avec notre famille.
Elle a réussi à se pardonner et à pardonner les autres.
Elle a réussi à se pardonner et à pardonner les autres. Elle nous a donné envie de connaître Jésus. Personnellement, au départ, j'ai pu être révoltée du fait qu'elle m'ait appelée Lucette. J'avais l'impression de remplacer Luc. Mais petit à petit, un jour, j'ai découvert Jésus. Et ça m'a montré combien avec lui, tout était différent. Tout était différent. Et ça me revient toujours à l'esprit, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Et c'est l'Esprit du Seigneur qui nous aide à pardonner, à aller de l'avant et à vivre, tout simplement à vivre. Parce que ma maman, mes frères et sœurs, mon papa, on aurait très bien pu ne pas vivre, rester avec cette rancune qui aurait gâché notre vie à tous. Actuellement, ma maman, elle a 101 ans. Elle téléphone à ses neveux, à ses nièces. Elle est intéressée par tout le monde. Et on communique avec elle sur iPad. Donc même la technologie ne lui fait pas peur. C'est un bonheur de voir quelqu'un qui vit parce qu'elle a pardonné.
Un tout tout grand merci à Lucette de nous avoir partagé ce bout d'histoire qui, je sais, nous a pas mal bouleversé autour de cette table. Merci beaucoup à elle. Alors du coup, Claude, la parole est à toi. Que nous dit la Bible justement sur le pardon?
Alors déjà, je pense que Lucette a dit beaucoup de choses. Et quand on aborde la question du pardon, en fait, c'est un sujet qui est très complexe. Parce qu'il y a différentes manières de l'aborder. Donc la première manière, c'est le côté de l'offenseur, c'est-à-dire je suis moi, celui qui offense, un petit peu ce que tu disais, voilà, je demande à Dieu de pardonner si j'ai mal agi. Ça, c'est un angle. Il y a l'angle qu'on a entendu avec Lucette, qui est plutôt celui de l'offensé, celui qui subit. Et puis, dans la vie, il y a des gens qui vont essayer d'être les médiateurs, les intermédiaires, donc qui vont essayer de trouver des solutions. Et puis, il y a la quatrième angle, je dirais, c'est Dieu. Et encore, quand j'ai dit ça, il me semble que j'ai encore oublié d'autres choses. Donc, il y a différentes manières d'aborder. Et en fait, moi, dans cette réflexion, j'aimerais aider les personnes qui ont été offensées à faire le premier pas pour s'en sortir. Avec l'aide de la parole de Dieu, bien sûr, mais de les aider. Parce que, voilà, moi je suis émerveillé de ce que je viens d'entendre, mais souvent une des questions c'est comment on fait. Et les versets qui ont été cités ont été forts, hein, voilà, par l'Esprit de Dieu. Ok, mais concrètement, comment je m'y prends? Et en fait, le sentiment subi, c'est-à-dire quand on a le sentiment de subir une injustice, enfin, une agression on va dire, eh bien, a souvent un impact très fort. Et déjà là, il peut y avoir un décalage, c'est-à-dire que je vis quelque chose et je vais le vivre d'une manière très douloureuse en disant « Waouh, quand on me fait ça, c'est dur, c'est douloureux. » Et puis d'un autre côté, j'ai souvent le sentiment que quand c'est moi qui fais ça, je me dis, ah ouais, mais j'ai des raisons. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a des décalages en nous, en fin de compte. C'est qu'une chose que nous, on fait à quelqu'un, on peut se dire, non, mais j'avais des raisons, enfin, c'est pas si grave, etc. Et quand c'est moi qui le subis, alors là, c'était la pire des choses. D'accord ? Donc, il me semble qu'il faut bien savoir que sur ces sujets-là, on n'est absolument pas objectif. On est à fond les tripes et, et ça bouge dans tous les sens. Donc, c'est pour tout ça que c'est un sujet difficile et complexe. Et ensuite, l'autre élément, c'est des fois que quand on parle de pardon, en fait, il n'y en a pas. Par exemple, moi, j'entends le témoignage de Lucette, mais j'ai malheureusement entendu aussi des personnes qui ont vécu des choses, alors, des fois similaires et des fois, je dirais, moins graves aussi, et qui restent avec ça. Qui restent avec ça pendant des années, des années. C'est-à-dire, il y a même des gens qui disent « Ah oui, j'ai pardonné !» Et puis on vient les voir 5 ans après, et boum, ça bouillonne toujours. 10 ans après, ça bouillonne. 15 ans après, ça bouillonne toujours. Donc on se dit « Oui, tu as pardonné, mais non, tu vis toujours cette souffrance-là. » Parce que pour moi, le pardon, c'est un moment donné où, effectivement, j'ai souffert ce que j'ai souffert, mais je suis en paix avec cela. C'est-à-dire que ça ne me fait plus souffrir. Je suis capable de le regarder, j'ai envie de dire en face, sans avoir les yeux embrumés de larmes, j'ai envie de dire. Donc voilà. Et c'est vrai qu'il y a des choses très violentes. Là, on a, par exemple, cet enfant qui a été tué. Il peut y avoir aussi des choses terribles dans un couple. On peut parler d'adultère, qui sont des choses très violentes aussi. On peut penser à des choses comme les abus sur les enfants, des choses vraiment très, très violentes. Alors là, déjà, je voudrais aussi écarter, quand on parle du pardon, quelque chose. C'est qu'il me semble que même avec des cas terribles, on parle d'abus, par exemple, sur des enfants, on doit pouvoir pardonner. Mais, je rajoute quelque chose, il faut en même temps être capable de s'en protéger. C'est-à-dire que je dois pouvoir mettre une distance qui me protège pour ensuite pouvoir, avec l'aide du Seigneur, passer à une étape suivante. Et je ne crois pas au pardon qui fait que les choses continuent. Pour moi, là, il y a un problème. Et donc, dans certaines situations de violence familiale ou de choses comme ça, on protège la vie d'abord. Et après, on chemine avec l'aide du Seigneur. Donc,
pardonner, ce n'est pas forcément renouer la relation telle qu'elle a pu être avant, quoi.
Non, ouais. Pas forcément. Mm-hmm. Pas forcément. Ouais. Mais c'est quand même être capable, à un moment donné, d'enlever le poids de la souffrance que j'ai eue. Mais si j'ai quelqu'un de toxique en face, je m'en protège. Je veux dire, on ne va pas, parce qu'on pardonne, vivre... dire, se faire taper dessus constamment. Je veux dire, non, il y a quelque chose où ça nécessite certaines attitudes qui sont parfois aussi compliquées à prendre. Parce que j'ai eu à aider des familles dans ces circonstances-là et c'est compliqué à prendre, des décisions dures. Hein, quand on dit il faut se protéger, des fois, c'est prendre de la distance. Et voilà, c'est pas simple. Donc voilà, il me semble qu'il y a tout ça. Et par rapport à ça, eh bien, il y a des personnes qui... comme je disais, ont de la rancune, et souvent, certains, il y a même de la vengeance. Et j'ai entendu dans le témoignage de Lucette qu'elle disait que son père n'a jamais parlé du procès, parce que j'entends souvent des fois ça à la télé, quand il y a des choses graves, on se dit « le procès va rendre justice ». Le procès ne rend jamais justice, parce que la souffrance n'est pas liée à une telle sorte de justice. La justice qu'attend la personne qui a souffert, c'est que la personne vienne lui voir et lui dire « Vraiment, je te demande pardon. Voilà. Et je le reconnais. » Et en fait, le vrai besoin d'une personne qui a été blessée, c'est vraiment cette soif de reconnaissance de la blessure qui a été faite. C'est ça, le cœur. Et c'est ça qui est très difficile. Alors pourquoi ? Parce que enfin, je ne sais pas, peut-être vous l'avez vécu, moi j'ai vécu, à un moment donné, quelqu'un me faisait ce que, pour moi, du mal, et c'était important à mes yeux. Et donc je me suis dit, en tant que chrétien, il faut que je pardonne, il faut que j'aie une démarche. Donc, ouais, je me suis armé de courage. Et je suis allé voir la personne, j'ai dit, écoute, là, vraiment... Et la personne en face décontracte, il commence à me dire, non mais attends, tu crois pas que tu exagères un petit peu? Et puis ça, ben c'est... donc commence à minimiser, commence à dénier ce que je disais, et puis même en remettre une couche, quoi, en me disant, non mais écoute, moi j'ai jamais vu des gens comme toi, quoi. Qu'est-ce que tu fais là? Donc moi je venais dans mon esprit chrétien pardonner, parce que je me disais, ouais, j'ai fait un travail avec le Seigneur, je pardonne. Et je me disais, voilà, je vais être honnête, je vais aller lui dire, parce que Matthieu dit ceci et cela. Et en face, pam, pam, je me prenais un aller-retour, quoi. Et en fait, je me suis aperçu que dans cette situation-là, ça devenait encore plus compliqué. Et quand je vois des gens qui ont vécu 5, 10 ans, 15 ans avec ces souffrances-là, c'est parce que quand ils ont essayé, j'ai envie d'arranger... Ils ont eu le sentiment que ça s'aggravait, c'est-à-dire que la personne en face ne reconnaissait rien. Et donc, je repars plus mal que je suis arrivé. Pourtant, moi, dans mon cœur, j'ai fait une démarche avec le Seigneur. Et là, on est devant, justement, pour moi, la vraie complexité du pardon quand je le subis. Et j'aime beaucoup ce texte de Jésus, hein, c'est Matthieu 11, 28-29, qui dit « Venez à moi ». Et ensuite, il dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et c'est intéressant parce que le mot chargé dans ce texte, c'est un passif et qui est lié au passé. C'est pas c'est un jour, on vous a mis un poids sur les épaules et ah, vous l'avez là, ou un boulet, comment vous faites pour avancer? C'est subi j'ai envie de dire, c'est violent, c'est pas... Des fois, il y a des petites bricoles, on pardonne, bon, on a oublié de dire bonjour aux voisins, bon, allez, on s'excuse, voilà, ça, c'est secondaire.
Ça dépend de la gravité de chaque cas.
Ça dépend de la gravité dans la manière dont je le ressens, moi. Et le même événement, toi, il peut rien te faire, et moi, me dévaster. Et donc, la question, c'est, voilà, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il dit deux choses, je vous donnerai du repos. Ensuite, il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez vos instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. » C'est-à-dire qu'il y a un joug à prendre pour le pardon. Waouh, attends, moi je viens de me faire démolir, et tu me dis « T'as un joug à prendre ?» Oui, il y a un joug à prendre. Et ce joug est extrêmement difficile, parce que c'est le combat justement de celui qui a souffert, c'est d'accepter qu'à un moment donné, il ne lui soit pas rendu justice. Que sa souffrance ne peut pas être reconnue par un autre humain, mais d'accepter que le Seigneur sait et que le Seigneur me connaît et accepte, lui, m'accueille avec ma souffrance. Et à un moment donné, c'est « je refuse le premier pas à faire », j'ai envie de dire, quand on évacue la vengeance et tout ça, quand je suis dans cette soif de reconnaissance, c'est à un moment donné de dire « je refuse » que cette soif-là, ce désir, prenne encore un jour de plus de la place dans ma vie. Parce que Seigneur, toi, tu es le seul à vraiment comprendre le poids de cette souffrance. Parce que, je vous rappelle, la même souffrance n'a pas le même poids pour chacun. Et donc, il n'y a que le Seigneur qui est capable de comprendre le poids que ça a pour moi, le boulet que c'est pour ma vie. Et donc, la première démarche pour moi, prendre le joug du Seigneur, de venir à Jésus, c'est Jésus qui dit, accepte que tu n'auras jamais justice sur cette terre, que cette personne ne te rendra jamais justice, qu'elle ne reconnaîtra pas. Pourquoi? Alors, peut-être parce qu'elle a une immense culpabilité, hein, c'est ce que nous disait Lucette, et je veux bien le croire, parce que les gens qui se sentent coupables, souvent, c'est des agresseurs, ils attaquent. Voilà, hein, si vous avez un animal qui a peur, il attaque. L'humain, par moments, se comporte comme ça. Je me sens coupable, et j'agresse l'autre. Je me mets en colère, je crie, je fais plein de choses. Et donc, si je suis dans cet état-là, la personne qui vient demander pardon, elle se fait agresser. Donc, il y a un moment donné où la démarche, c'est de dire, Seigneur, j'ai vraiment soif d'entendre dire, qu'on reconnaisse toute la souffrance que j'ai eue. Mais je comprends que cet homme ou cette femme qui m'a fait souffrir ne le fera jamais. Alors j'accepte par la foi que toi, tu m'accueilles en connaissance la plénitude de ma souffrance et j'accepte par la foi que ce soit suffisant pour ma vie. Et à partir de là, les injustices qui ont été faites, je peux les accueillir comme des injustices, parce que je crois qu'il ne faut pas non plus nier que c'est une injustice, mais je peux comprendre qu'il y a quelqu'un qui m'accueille et qui me dit « Oui, mon enfant, moi je te comprends, je t'accepte. » Et le joug de Christ, c'est ça, parce que ça va me permettre, à ce moment-là, de prendre un poids, mais qui me libère. Par contre, il y a beaucoup de gens qui voudraient que, tac, instantané, je claque des doigts, j'ai dit ça, Seigneur, ouais, super. Eh bien, désolé de vous décevoir un petit peu, mais il va falloir le répéter peut-être plusieurs jours dans la prière et demander à Dieu de nous donner cette force-là. Et c'est là où l'Esprit de Dieu intervient, parce qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est capable de me donner ça. Parce que moi, j'en suis pas capable. Et c'est de le reconnaître devant le Seigneur. Et donc, voilà, il me semble que c'est ces éléments-là. Et alors, j'ai voulu garder juste pour conclure un verset qui m'a beaucoup touché. Hein. C'est un texte de Job. Et Job dit ceci, « Dès maintenant, j'ai un témoin dans le ciel, j'ai un répondant dans les hauteurs. Mes amis me traitent avec insolence. » Alors, mes amis, c'est celui qui m'a fait du mal, parce que souvent, c'est quelqu'un de proche. C'est pas des gens qui habitent à des centaines de milliers de kilomètres. « Mes amis me traitent avec insolence. C'est Dieu que j'implore par mes larmes. Puisse-t-il être l'arbitre entre l'homme et Dieu, entre l'humain et son compagnon ?» Et quand j'entends ça, voilà, j'ai un répondant, j'ai un témoin, et ce témoin m'accueille. Alors voilà, c'est un petit peu ma réflexion sur le pardon, parce que, enfin, un aspect du pardon qui, pour moi, est la première étape pour pouvoir vivre un pardon libérateur. Prendre le joug, venir à Jésus, accepter l'inacceptable par la foi. Voilà.
Merci pour ton message, Claude. Un message pertinent dans une période où parfois la place est faite au pardon est si difficile. Et nous avons parfois l'habitude de réagir un petit peu aux messages à chaud avec les chroniqueurs et les filles. Donc, si vous aviez un élément ou quelque chose qui vous a touché dans ce message, ce serait quoi ?
Vas-y, Amandine.
Écoute, c'est vrai que j'étais déjà en train de réfléchir à plein de choses. J'ai déjà réagi. J'étais trop impatiente. Oui, on parlait, j'évoquais avec Claude là, du fait que parfois, on a aussi du mal à gérer cette colère qu'on peut ressentir quand on a été... quand on était blessé finalement, et on se dit en tant que chrétien, on peut pas être en colère. Donc du coup, en fait, comme on peut pas vivre et reconnaître qu'on est en colère, et ben on n'arrive pas à passer après aux étapes d'après qui sont aussi se lâcher prise. Et donc du coup, voilà, moi ça m'a interpellé sur ça, sur le fait que Jésus il nous fait réfléchir aussi sur comment on gère nos émotions. Jésus a été en colère, mais d'une colère qui était saine et pas destructrice pour les autres. Et donc du coup, ben moi ça m'a fait réfléchir à mon propre vécu. Comment j'ai pu exprimer cette colère toute seule avec mon canapé dans lequel j'ai tapé écrivant des choses que j'ai déchirées. Enfin, voilà, c'était des techniques qu'on m'a données pour pouvoir exprimer cette colère, pour ensuite pouvoir passer. Et puis, c'était une colère que j'ai déposée au pied de Dieu, en fait, dans la sécurité de la présence de Dieu. Et tu parlais tout à l'heure de dire, on se met dans la présence de Dieu, puis on lui demande au Saint-Esprit qu'il nous remplisse et qu'il nous aide. Et je pense que tu as le droit, cher auditeur, d'avoir aussi ce temps d'expression de colère dans la sécurité du Seigneur. Voilà, ça c'était un peu ma réflexion.
Mais pouvoir vider son sac, voilà. Et tout en maîtrisant son acte.
Voilà.
Et c'est là où ouais, aussi une des questions, hein. Ça peut être très difficile de dire, voilà, je suis fâchée, je suis énervée, j'ai du mal à maîtriser ça, mais en même temps, c'est pas pour autant que je vais attaquer l'autre.
Oui, ou te détruire toi-même aussi, parce qu'on peut se consumer aussi hein, dans cette étape. C'est pas une étape dans laquelle il faut rester. Ouais, non, c'est...
Oui, c'est que j'entends ce que vous dites toutes les deux, mais la difficulté, bon, moi, ce que je disais tout à l'heure, hein, je suis quelqu'un du Sud, ça boue, etc., et dire, je veux dire, tout en faisant attention à l'autre, pour moi, c'est extrêmement difficile. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Amandine, c'est-à-dire qu'il faut se mettre devant Dieu, parce que si je me mets devant les autres, je ne suis pas sûr que je sois très... chrétien. On va dire les choses. Donc, non, oui, et c'est là où, pour moi, la prière, la relation authentique avec Dieu est fondamentale. Et quand j'ai cité Job à la fin, moi j'aime beaucoup le livre de Job, dans son authenticité et sa violence vis-à-vis même de Dieu à certains moments, tellement ça le brûle à l'intérieur. Et je me dis, là, devant Dieu, dans cette sécurité-là, oui, je peux aller au plus profond de mes sentiments, qu'ils soient violents, qu'ils soient durs, parce que j'ai en face un être qui va écouter et qui surtout va comprendre ce qui motive. Alors que quand je le dis à un autre être humain, il ne comprend pas forcément ce qui motive et il ne reçoit que la violence de mes propos. Et donc, on n'avance pas, quoi.
Ouais, tout à fait.
Ouais, c'est vrai. Un autre point important, c'était aussi l'histoire de faire le premier pas. Parce que souvent, l'être humain a tendance à attendre. Ah ben, c'est lui qui m'a offensé, c'est lui qui doit venir en premier vers moi. Et on risque d'attendre longtemps. On a souvent envie que l'autre reconnaisse sa faute et cela ne va pas toujours arriver.
C'est presque une histoire entre toi et Dieu, plus qu'entre toi et la personne en face.
C'est
quoi.
Ça, c'est ça.
Et toi, Brian, alors, si tu devais retenir quelque chose.
C'est vrai que la notion du pardon, comme tu le disais, ça prend une place quand même qui est fondamentale. Tout à l'heure, on parlait du pardon qui fait qu'on ne va pas forcément, si on pardonne, on ne va pas forcément renouer le contact avec la personne. Et je crois qu'il y a un point aussi qui est essentiel, c'est que ce n'est pas pour... Souvent, on dit, je fais table rase, page blanche, je pardonne et on oublie tout. Et je pense que la notion d'oubli, pardonner, c'est pas oublier.
Tout à fait.
C'est une notion qui est importante aussi. On peut toujours avoir ces souvenirs-là. Et comme tu le disais, ça va nous permettre de vivre, de continuer à vivre. Mais c'est pas pour ça qu'on oublie. Et je pense que c'est aussi important de le souligner.
Bah justement, Brian, il me semble que pour la chronique Dieu dans les arts, tu as envie de nous partager quelque chose qui est en lien avec ce que tu es en train de dire.
Tout à fait. J'aimerais partager avec toi, cher auditeur, une œuvre artistique et plus précisément une œuvre cinématographique qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors, ce film s'intitule La voix du pardon, ou en anglais I Can Only Imagine. C'est un film biographique qui se déroule dans le Texas et qui raconte l'histoire vraie de Bart Miller. Alors, pour vous raconter un petit peu, à l'enfance, Bart Miller passe par des moments difficiles, il fait face à des ruptures émotionnelles, il voit ses parents se déchirer, l'abandon de sa maman et le rejet de son père. Il doit donc se forger et avancer, grandir avec ses bagages. Ce film, donc, il nous montre la voie V-O-I-E et la voie V-O-U-X de ce jeune homme. Une histoire qui ne te laissera pas indifférent, ça j'en suis sûr. Mais je ne te spoil pas tout, je te laisse écouter la bande-annonce.
C'est une chanson extraordinaire.
Elle est venue juste comme ça. J'ai dû l'écrire en moins de 10 minutes.
Bart, ça ne t'a pas pris 10 minutes pour écrire cette chanson, mais des années de vie. Raconte-moi d'où elle vient.
Je n'ai jamais raconté mon histoire à qui que ce soit. Quand j'avais 10 ou 11 ans, la vie était dure.
Où est maman ?
Elle s'est tirée d'ici. Elle veut plus de moi.
Stop !
Elle veut plus de toi non plus.
J'ai toujours adoré la musique. Et j'ai trouvé quelques chansons auxquelles je me suis accroché. Elles m'ont donné de l'espoir.
Je suis épaté, ça n'est pas sa vraie voix que j'entends.
Parce qu'il m'en fallait. Je peux y arriver, papa.
Non, tu ne peux pas. Quand tu ouvriras les yeux, tu te rendras compte que tu seras nulle part. Tout ça parce que tu auras voulu poursuivre un rêve absurde.
Je m'en vais, Shannon.
Je veux que tu saches que je prie pour toi tout le temps. Et j'espère que quoi que tu cherches, tu le trouveras.
Qu'est-ce que tu essaies de fuir ?
Mon père.
Alors écris là-dessus. Tu dois transformer toute cette douleur en inspiration.
Il faut que je règle certaines choses. Et je le fais de la seule façon que je connais. C'est en écrivant une chanson.
T'as faim ? J'ai mis la table.
Ça veut dire quoi, ça ?
Je veux réparer mes erreurs. Celles qui t'ont fait souffrir.
Mon père était un monstre. Et j'ai vu le Seigneur le transformer.
Toi, t'as un don. Un vrai don.
Je croyais pas que Dieu pouvait faire ça. J'ai écrit cette chanson pour mon père.
Merci Brian pour ce partage.
Avec plaisir.
Que vous puissiez avoir du plaisir à aller voir ce film qui effectivement m'a beaucoup touché, beaucoup interpellé et ne nous laisse pas indifférents comme tu disais. J'aimerais vous inviter, chers chroniqueurs, chers invités et puis chers auditeurs, à un temps de prière maintenant. J'ai proposé à Claude de nous accompagner dans ce temps. Et puis, cher auditeur, chère auditrice, je t'invite aussi à pouvoir prendre après un temps, à la fin de ce culte, si tu le souhaites, avec Dieu, pour pouvoir peut-être déposer à ses pieds tout ce qui t'est venu sur le cœur, dans ta tête, pendant ce temps de culte. Eh bien, prions ensemble.
Eh bien, Seigneur, tu nous vois avec nos fragilités, nos faiblesses, nos difficultés à pardonner, avec toutes ces blessures parfois que l'on a pu accumuler dans nos vies. Et voilà, maintenant je voudrais te demander de nous aider, chacun d'entre nous, à commencer ce chemin. Un chemin où on va prendre ton joug, on va venir à toi, et on va faire cette expérience de foi. Je sais que tu vas nous guider à chacun, que tu vas nous accompagner, que tu vas nous donner la force, que tu vas y répondre. Et je te remercie déjà d'avance pour tout cela. Amen.
Amen.
Tu es connecté au culte espoir et aujourd'hui nous avons l'occasion de parler du pardon. Là, tout de suite, c'est la chronique Action. Je vous demande mes coéquipiers, ma coéquipière, avez-vous déjà eu un caillou dans l'une de vos chaussures ?
Ah oui, oui, oui.
Oui, c'est très embêtant.
Très sympathique.
C'est bien dérangeant. Cher auditeur, voici un défi pour cette semaine. Tu vas choisir un caillou, pas trop petit, pas trop grand. Ensuite, place-le dans une de tes chaussures ou même dans les deux, si tu le souhaites.
Wow.
Tu pourras... Ensuite, tu pourras essayer de marcher avec ce caillou dans ta chaussure. Tu peux faire ce que tu veux. Marcher, danser, courir, faire le ménage, aller aux courses, au travail. Ce qu'il faut en tout cas, c'est d'essayer de vivre normalement avec ce caillou dans ta chaussure. Je pense que tu as compris mon idée, n'est-ce pas? Ce n'est pas évident de vivre normalement avec un caillou dans les chaussures. J'applique cela comme le pardon. Quand on n'arrive pas à pardonner quelqu'un, cela nous dérange constamment. On a du mal à oublier le problème. Ça nous attriste, la gorge reste serrée, ça nous fait mal, nous empêche d'avancer. Aujourd'hui, je t'invite à enlever ce caillou de ta chaussure. Je t'invite à libérer le pardon. Ce n'est pas toujours simple, mais ça commence par une décision. Décide aujourd'hui que tu veux pardonner. Ensuite, demande à Dieu de te donner suffisamment de courage et de force pour accomplir cet acte si important. D'autre côté, fais un bilan de ta vie. Est-ce que tu as besoin de demander pardon à quelqu'un? Fais-le. Demande pardon aux personnes que tu as blessées. La vie est courte, ça ne vaut pas la peine de vivre dans le passé. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es plus esclave du péché, plus esclave de la culpabilité. Aujourd'hui, pardonne et demande aussi pardon au nom de Jésus et sois libre. Jésus a pardonné à beaucoup de gens quand il était sur cette terre. Il nous pardonne aujourd'hui de tous nos péchés. Jésus nous invite à pardonner à toutes les personnes qui nous ont offensés. Courage à toi, place le caillou dans ta chaussure. Bonne réflexion et action.
Merci pour ce défi que tu nous proposes, Mildred. Que tous ceux et celles qui voudront le relever puissent être remplis de force, et oui, de courage, de paix, hein, de Saint-Esprit. Hein, pour vivre cette expérience, soyez bénis vraiment. Nous voilà à la fin de ce culte espoir. Merci Brian, merci Mildred pour votre participation, pour vos partages, pour vos réflexions. Merci Claude de nous avoir invités à cette réflexion sur le pardon. Et je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine, cette fois-ci pour parler d'un autre thème de ton choix, l'Église. Merci cher auditeur d'avoir passé cette heure avec nous. Nous espérons que celle-ci t'a fait du bien, t'a ressourcé et t'a permis de fixer les yeux sur celui qui peut tout et qui t'aime d'un amour éternel, notre Dieu. Belle semaine et à bientôt. Bye!
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.